Henri du Vernoy, un soir de pluie. Monsieur Benoît Maisol, debout devant son pupitre, courbait sa haute taille sur une petite feuille de papier vert où il écrivait la suite de son histoire de Jean Bocius, poète latin du XVIe siècle. Bocius était arrivé au quartier des Livoniens lorsque le grand-duc Bastide y entra en armes pour le piller. Selon Bell, la raison de cette violence fut que le patriarche des Moscovites s'était plaint au tsar que les Allemands efféminaient le courage des Moscovites et leur faisaient dépenser beaucoup d'argent pour toutes sortes de breuvages qu'ils leur vendaient. La tapisserie qui séparait le cabinet du petit salon s'entr'ouvrit. « Ah, c'est toi, Nicole, entre !» s'écria M. Maisol en posant sa plume. Ce ne fut pas Mme Maisol qui entra, mais le valet de chambre, Émile, et sans doute le valet de chambre d'Émile était ivre. Il ne portait point sa livrée d'après-midi, mais un méchant complet et jaune sale. Il tenait à la main une casquette de cycliste. Ses joues flambaient. « Que voulez-vous ? » demanda M. Maisol. « C'est des choses que j'ai à expliquer. Vous seriez peut-être mieux en état de vous expliquer demain. Demain, je serai parti. Ah, vous quittez la maison ? Sûr que je la quitte. Soit, je vais vous régler. On m'a payé. Qui ont ? Madame ? Oh, première nouvelle. Ben non, d'un sens, elle espérait me retenir, mais je me suis mis dans la tête que je partirais, et je pars. J'ai mes raisons. Mais je ne vous les demande pas. Adieu donc, et bonne chance. Un conseil, Émile. Méfiez-vous du cognac. J'ai bu parce que j'avais du chagrin. Quel chagrin ? Ben, de voir une personne qui m'a fait voir toutes les couleurs, et puis je m'étais attaché à la maison. Alors restez. Non, je me placerai chez un monsieur seul. Les dames, je veux le dire à monsieur, carrément et sèchement comme je le pense. C'est toute garce et compagnie. Monsieur veut bien me permettre de m'asseoir, j'ai les genoux fauchés. Je bois peu, d'habitude, un petit coup de blanc le dimanche, histoire de ne pas être moins gai que les camarades. Mais en semaine, la consigne, l'argenterie, les carreaux, le service de table, je sors pas de là. J'ai donc bu pour oublier, pour me flanquer du cœur au ventre, vu que depuis longtemps, je voulais avoir une conversation avec monsieur, d'homme à homme, et en supprimant les distances. Pour les choses graves, moi je soutiens les hommes, c'est mes collègues, va Dieu. On vit pas pendant 4 ans avec un patron qui est si doux et si comme il faut, sans s'attacher à lui, misère de bonsoir de sort. Ça fait mal au cœur de voir quelqu'un. Non, levez-vous et sortez. Madame, plus un mot, sortez. Non pas avant d'avoir expliqué en ami ce que j'ai à expliquer. Depuis que je sers, monsieur, on ne se connaît guère. J'ai du style et je reste à ma place. Maintenant me voilà libre et le tonnerre de Dieu ne m'empêcherait pas de causer. Je suis pas n'importe qui. Je m'occupe de politique, je parle dans les réunions et celui-là qui me traite de barbin, je lui colle un ramponneau sur le coin de la figure. Zou ! Eh bien, primo, la cuisinière vole monsieur. Et la femme de chambre est une salope qui fait la ribouledingue au 7e avec des n'importe quoi qu'elle ramène le soir. D'ailleurs, elle s'en va, elle quitte aussi, rapport à des histoires. C'est tout ? Attendez. Ah, vous m'embêtez, allez cuver votre vin ailleurs. Mon vin ? Vous êtes saoul. Et après, il y a aussi... Monsieur Maisol empoigna au collet l'homme dont la face se convulsa et de comique devint hideuse. Lâchez-moi. Il y a aussi que madame couche avec monsieur Fournier. Ils se rencontrent dans un hôtel de la rue de Navarin, le mercredi et le samedi de 4 à 6. Monsieur Maisol marcha de long en large dans son cabinet de travail. Ce géant avait un visage de gribouilleur timide, des yeux noyés de douceur. Il portait long sa barbe et ses cheveux d'un admirable roux vénitien strié de gris. On l'appelait le beau Maisol dans les milieux savants. Mais dans les milieux mondains, sa gaucherie faisait oublier sa beauté et on le tournait volontiers en dérision. Il enferma dans une pochette la suite de ce travail qui ne reprendrait pas de sitôt, remit ses lunettes dans leur étui, soupira, haussa les épaules et jeta un regard circulaire, lourd de regrets, à cette chambre qu'il aimait tant et qu'il avait si bien arrangée quand il croyait son installation définitive. Comme s'il y avait des installations définitives. Maintenant que ses soupçons se trouvaient précisés, il faudrait rompre puis déménager. Ce serait un de ces déménagements d'après-divorce, guettés par les voisins et par les concierges. Non, non, il resterait tout à l'infidèle. Il emporterait que ses livres, son bureau, ce pupitre. Le reste lui rappellerait trop l'absente. Dans ce canapé, elle s'installait parfois à la fin de l'après-midi, quand elle revenait d'où. Il s'asseyait à ses pieds, sur un coussin, et elle caressait ses cheveux et elle soufflait sur son front, pour faire partir, disait-elle, les idées sérieuses. Les idées sérieuses s'envolaient. Veux-tu voir ce que j'ai acheté, un velours épatant ? Elle apportait Paris dans ses petites mains qu'elle n'avait pas la force de déganter, un relent de chair nue et de grands magasins. Silas ! Et il aurait voulu, lui aussi, en soufflant sur son front étroit, chasser les mensonges, dissiper l'ennui dont il la sentait enveloppée dès qu'elle rentrait. Il appelait « ma petite fille ». Eh bien, sa petite fille couchait avec M. Robert Fournier. Voilà Fournier, cet imbécile, ce parasite. Elle sortait d'un lit. Elle amenait dans son parfum une odeur d'homme qu'un autre plus malin eût flairé. Il ne ressentait aucune colère, mais une fatigue écœurée, le dégoût de cette aventure ridicule, et comme une ironie qui voilait sa peine. L'ironie apitoyée que le spectateur éprouve pour une infortune de ce genre. Il prit des résolutions d'égoïsme. Désormais, il ne penserait qu'à lui. Il n'était pas encore complètement annulé. Son rôle d'être vivant ne se terminerait pas ainsi. Tout ce qui lui restait de jeunesse se révolta. Il éprouva le besoin de sortir et voir du monde, d'apprécier la beauté de femme qui ne serait point Nicole. Ce fut alors qu'une sonnerie retentit, lointaine et obstinée. Cela venait de l'escalier de service. Monsieur Maisol trouva la cuisine déserte et ouvrit la porte, livrant passage à une petite femme qui portait un grand carton. « Je vous demande pardon, dit-elle. Madame Maisol, s'il vous plaît, je viens de la part... de Madame Clermont.
Et pourquoi ? Demanda Benoît.
Mais pour des robes en laine grattée et des sweaters en tricot de soie, tout ce qu'il y a de plus coquet et avantageux. Oh, je peux les vendre bon marché rapport à la saison. C'est des costumes de plage, n'est-ce pas, monsieur ? Je commence ma tournée en février, histoire d'arriver avant les concurrentes. Et puis, ça fait plaisir de s'occuper de l'été quand il neige tant que ça peut.
« Ah, il neige donc ?»«
Non, non, monsieur, c'est une façon de parler. »
Monsieur Maisol ne put s'empêcher de sourire. La petite le dévisageait hardiment. Elle était gentille sous son chapeau de 4 sous, et elle tenait avec une élégance affectée son parapluie bruisselant.
« Madame Maisol n'est pas là. »«
Ah non. »
« Vous ne voulez pas les voir, les modèles ?» dites, monsieur.
« Oh, je n'y connais pas grand-chose. »«
En attendant votre dame. Bon, ben par ici. Il la fit entrer dans son cabinet de travail, avec la vague impression qu'il reprenait son existence de garçon au quartier latin. Une de perdue, 10 de retrouvée, qui la remplacerait avec les mêmes mots, les mêmes gestes, la même voluptueuse perfidie. Nicole n'avait été qu'une maîtresse à peine consacrée par le mariage, semblable aux autres. La vie recommençait après 3 années d'entente morne. Bien, asseyez-vous, comment vous appelez-vous?
Germaine, monsieur, et pour mon grand nom, le plus petit qui se fasse, Bi, Germaine Bi. Oh, c'est économise langue quand on signe. Ah, il fait meilleur ici que dehors. Est-ce que vous croyez que madame m'achètera des affaires? Je vous montre les sweaters, ils sont solides, vous savez, on peut tirer.
Vous travaillez à votre compte?
Oui, monsieur.
Chez vos parents?
Oh, je n'ai plus de parents. Maman est morte et papa s'est tué de saisissement. J'habite chez ma sœur qui est mariée. Mon beau-frère, place du café chez les marchands de vin.
Quel âge avez-vous?
20 ans.
Oh, c'est beau.
À ce qu'on dit, moi, j'ai pas le temps de m'en apercevoir.
Elle déficela le carton et en sortit des tricots de soie blanc, citron, vert.
Ils sont jolis, pas?
Charmant.
Ça fait gai au bord de la mer.
Vous y allez quelquefois?
Oh, jamais. Seulement je me fais une idée de tout. Je n'ai qu'à vouloir. Je ferme les yeux et je vois Deauville comme je vous vois. Les plus chics, selon moi, c'est les verts. Madame Clermont m'en a acheté 2. D'ailleurs, je sens que je suis en veine aujourd'hui. Une chance d'abord que vous soyez venu m'ouvrir. Avec les domestiques, faut toujours se débattre.
Les miens m'ont quitté.
Non, vrai? Oh, pourtant, on doit être bien ici.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oh, une impression.
L'appartement ou moi?
Oh, pour l'appartement, il a tout du musée.
Et le patron aussi?
Il n'a pas l'air méchant, le patron.
Pas l'air seulement.
Dame,
oh, se méfie.
Ben, je vois mon beau-frère. Avec ses clients, c'est plat comme punaise. À la maison, il se rattrape, il fait le maître. Madeleine obéit et d'une gifle, elle l'enverrait à Dache. Il tient pas sur ses guiboles. Oh, s'il était fort, il serait doux. Je vous rase, monsieur.
Non. Elle sortit une robe en laine grattée et la fit danser au bout de ses doigts.
Si l'on prenait 2, elle consentait une légère diminution.
Combien? Demanda-t-il. Tout ce que vous avez?
Les tricots, les jupes et 3 bonnets pour l'auto. Oh, attendez que je regarde ma liste. 988 francs.
Il lui tendit un billet de 1000 francs. Elle perdit la tête. Jamais elle n'avait conclu une affaire assez importante. Une riche idée qu'avait eue Madame Clermont de l'envoyer là. Elle sortit un calepin et un crayon.
Vous m'excusez, je ne suis pas très calé comme comptable. Que de 18 au 8 reste 2, je retiens 1. Qui de 18 au 9 reste 1 et je retiens 1. Eh bien, voici 10 francs, 1 franc en or et 2 petits billets de 50. Je vous remercie.
Il ajouta, bien maintenant, vous me permettez de vous offrir un petit cadeau. Remettez tout ça dans le carton et emportez. Elle hocha la tête.
Oh, je savais bien aussi que c'était pas naturel.
Mais rien de plus naturel pourtant. Vous refusez?
Et la voix tout bas. Je suis sage. Mais je ne vous demande rien, mon petit.
Pour qui me prenez-vous? Voyons, n'ayez pas peur. Asseyez-vous, oui, sur le canapé. Quand vous êtes entré, j'étais malheureux. Vous m'avez apporté une bouffée de courage. Je vous en sais gré.
Je préfère que vous gardiez la marchandise, c'est lourd à transbahuter. Tandis que si je la laisse ici et que je me sauve avec la galette, je serai toute heureuse et toute légère. Il n'est pas question de fierté, mais de commerce. Vous offrirez à madame. D'abord, elle rouspétera. Je connais les femmes. Est-ce que ça va pas, seulement? Et ensuite, elle sera contente.
Elle ne sera pas contente.
Ah, je comprends, oui, le genre de mon beau-frère. Oh, c'est pour ça que vous étiez triste. Mais tout n'est pas rose.
Elle se tut, puis elle lui tendit les mains gentiment. Alors il tomba sur un coussin à ses pieds, comme hier pour Nicole.
« Ne pleurez pas, allez, monsieur. »«
Oh, je ne pleure pas. » Elle pleurait. Cet homme si grand, si fort, qui s'est écroulé tout à coup et qui lui baisait humblement les mains. Un cocu, certainement. Mais il ne correspondait point à l'idée qu'elle se faisait de cette classe d'hommes. Elle se les représentait plutôt chauves, avec une petite touffe de cheveux formant cornes de chaque côté de la tête. Il paraissait jeune encore. Et ses beaux cheveux d'artiste, depuis qu'elle était entrée, elle avait envie de le caresser, comme on caresse un tendre chien. Une confiance tiède l'envahissait, l'obscur pressentiment qu'elle venait de trouver le refuge, une honte aussi de sa rebusée et de ses souliers lamentables. Charles IX, aux barrettes déchirées. Elle sentit à travers la mince étoffe de la jupe la chaleur des lèvres qu'il posait sur ses genoux. La destinée, avait coutume de s'écrier sa sœur Madeleine, qui était fataliste. Un coup de sonnette, une porte qui s'ouvre, et derrière cette porte, un pauvre monsieur aux yeux tristes. Un désir la saisit de faire à ce riche le cadeau suprême qu'elle réservait à l'amour. Tiens, pauvre homme, prends. Les femmes ne sont pas si mauvaises que tu crois. Est-ce l'amour, cette langueur qui la livre?
Soyez raisonnable, si votre dame entrait.
Et après, un prêt des bras rendu, sans doute. Elle se reproche sa sottise.
Votre dame.
Ah, une dame qui courait la prétentaine, certainement. Tant pis, elle ne veut pas qu'il demeure ainsi à ses genoux. Cela lui tord le cœur de le voir courbé, timide, malheureux. Et vite, elle glisse du divan sur le coussin à côté de M. Maisol. Leurs bouches sont jointes. Elle a connu d'autres baisers meilleurs, bien sûr. Gamine avec des gamins. Mais ce baiser-là lui donne une ivresse maternelle. Il lui semble qu'elle sauve un homme et en frémit d'orgueil. Quand ils se séparent, elle l'observe avec anxiété. Il a peut-être guéri, on a vu de ses miracles. Il est guéri. Il balbutie des mots extasiés, rauque de désir. Elle lui a rendu la vie. Et M. Maisol prend la fierté qu'elle en éprouve pour cette joie physique dont il est lui-même transporté. C'était ça, son amour pour Nicole. Ah, les poètes, les romanciers, ces imbéciles qui croient dans la passion unique, qui chantent l'inéluctable. Il n'est point qu'un homme pour Mme Maisol, et elle le prouve. Il n'est pas non plus qu'une femme pour un mari. Sur cette terre où tout est inachevé, provisoire, fragile, manqué, nul ne peut se vanter d'être indispensable. Et les unions exclusives appartiennent à la fausse littérature. Il donnerait presque raison à sa femme. « Quand ? » supplie-t-il. « Demain, soir de la Trinité. » Ils se relevèrent. Il la prend dans ses bras, elle est si petite, il est si grand. Est-ce son cœur qu'elle entend battre? Non, c'est sa montre. Elle rit et il boit ce rire. «
Votre petit nom à vous ?
Benoît. Mais lui préférer Lucien, Pierre, Jacques ou Jean, mais Benoît, c'est à cet amant si doux, qu'il l'a vaincu. Elle refait le paquet. Elle ne voudrait pas que ses robes et ses tricots qu'elle a confectionnés à l'ast à Madame Maisole.
Je les garde, vous voyez.
Prête à partir, émue, elle ajoute
« J'ai confiance. »
Il traverse le boudoir, le salon, l'antichambre. Venue par l'escalier de service, elle a les honneurs du grand escalier, le commencement. À demain. Elle déteste en tout cas la méchante inconnue.
À demain. Laissez-moi, mon chéri, il faut que je m'en aille. Je ne peux plus me voir ici, maintenant.
Et elle conclut, cérémonieuse,
« Au revoir, monsieur, oh, je ne vous donne pas de reçu. »
Il rêve, il sourit et son sourire se glace. « Nicole, on lui dira, « Mais honnête, ma chère, les domestiques sont partis, elle obligea d'en faire autant. Pour les explications, adresse-toi à monsieur Robert Fournier. » Mais il ne peut établir un plan précis, car sa pensée retourne à cette petite. Va-t-il être aimé ? Oh, tout est possible. Elle a frissonné sous son baiser. Ainsi elle l'appelait mon chéri, ce qui n'arrivait jamais à Madame Maisole, ou sinistrement que cela ne comptait pas. Madame Maisole était joviale, elle disait « Benoît », avec un accent aigu sur le « et ». Pour amuser le monde. Une Nicole très gaie qui prenait devant les tiers, quand elle lui parlait, une amitié de dompteuse, autorité de dompteuse, Benoît. Elle sera moins gaie tout à l'heure quand il demandera les nouvelles de la rue de Navarin. Ensuite, elle aura le loisir de rejoindre M. Robert Fournier, qui habite à Avenue Wagram, une pièce au rez-de-chaussée. Une autre pièce qu'il appelle « Mon atelier » et où deux amants doivent se battre après une semaine de cohabitation. Libre à eux de préférer l'hôtel, charmant pour y passer 2 heures, mais moins agréable pour y demeurer.
« Eh bien ?»
Nicole, qui n'a pas entendu rentrer, se dresse devant lui et l'interroge.
« Il paraît que les domestiques sont partis, un soviet ?»
Un soviet.
Oh, quelle urgence! Ils t'ont donné une raison?
Bon, je n'ai vu qu'Émile.
Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Oh, il divaguait.
Je m'en doute, mais encore.
Il était ivre. Elle hésita à poursuivre l'interrogatoire. Il devine qu'elle brûle de lui poser des questions. La femme de chambre devait savoir bien les choses. Et la femme de chambre était la maîtresse d'Émile.
Quel bout !
Oui.
Enfin, nous dînerons au restaurant.
Elle reprend d'un ton négligent.
Justement, j'avais invité Robert à dîner. Il connaît un marchand de vin extraordinaire qu'a de Bohème, Béthune. On y mange des rognons à la fine champagne 1838. Demain, j'irai au bureau de placement.
Quelle scie, crois-tu?
C'est la maison qui les gâte. Les rastas du 3e donnent à leur groupe un traitement de général de division. Oh, tu pourras venir tel que tu es. Je sais que cela t'assomme de passer un smoking. Après, mon Dieu, nous irons au cinéma. On m'a parlé d'un film épatant. Pour m'amuser, tu me diras ce qu'Émile t'a raconté, hein? Quelle horreur, un homme ivre! La concierge m'a mise au courant, comme j'arrivais. Ils se chamaillaient tous les trois. Ils se sont réconciliés pour nous plaquer. Oh, charmante soirée. Ça vaut mieux que la fièvre typhoïde. T'as bien travaillé? On n'a pas téléphoné? Il paraît qu'il est venu une dame pour moi. Qui était-ce?
Bon, oui, une quêteuse, oui.
Mais pourquoi ouvres-tu la porte quand il n'y a personne?
Oh non, 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 n'allume pas l'électricité, on voit bien assez clair. Monsieur Maisole tourne deux boutons. Nicole a gardé son manteau de fourrure, son grand chapeau. Elle met son manchon devant son visage et s'efforce de plaisanter. Le grand jeu, toute la lumière. Il reste silencieux. Elle ne trouve plus un mot. Et dans ce silence implacable passe la vérité. Alors elle laisse tomber son manchon et lui offre, comme si elle l'abandonnait à ses coups, un visage qu'il ne soupçonnait pas, crispé d'inquiétude, tragique. « Benoît, tu me fais peur. Parle, tu es là avec ton regard de juge d'instruction, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, la petite fille ?» Elle essaie de sourire, et c'est terrible ce sourire tremblant dans cette face morte, la bouche affaissée, les yeux agrandis. Elle attend. Il sait, oh, elle en est sûre, et elle a peur, peur d'être renvoyée. Une chatte hérissée par l'épouvante de la rue où il fait froid et qui s'accroche à un coussin. Ce qu'elle aime à cette minute sinistre, ce n'est pas M. Robert Fournier, sportman avec son crâne pointu, sa moustache en brosse, son monocle, sa taille fine et sa cravate avantageuse. Ce n'est pas non plus ce mari, pillon larmoyant, qu'elle a eu tant de peine à supporter. Ce ne sont ni les éphèbes de sa suite, ni M. Virgo, peintre illustre, son Sigisbée, non! Elle est froide d'angoisse et de vertu. Ce qu'elle aime, c'est cet appartement. Ce sont les tapis, les lacs soyeux, les tableaux des murs, la porcelaine chinoise des lampes. C'est la fourrure qui lui tient chaud et tout ce qu'il y a d'elle dans ce luxe créé pour elle et qui la laisserait, si l'on en arrachait, nue, misérable et grelottante. Que ferait-elle pour enfoncer dans la gorge de Benoît les maux irréparables qu'elle pressent? Et comme elle assassinerait de bon cœur M. Robert Fournier, qui doit en ce moment, content de lui et rassasié d'elle, fumer avec tranquillité le cigare de l'amant repu. S'il était là au moins à partager sa terreur, il vérifierait que le plaisir se paye. M. Robert Fournier ne paye jamais. On l'invite. Il prend une large tranche de bœuf rôti, choisit le plus beau fruit de la corbeille et s'offre la femme par-dessus le marché. Après les années de mariage dont une égayée par l'adultère, après ces mois de richesse et de tranquillité, il faudrait rejoindre le domicile paternel, fleuri d'exploits d'huissier ou devenir Madame Robert Fournier avec 9 000 livres de rente et la perspective d'entendre ce reproche quotidien. Curieux, personne ne m'invite plus à dîner. Oh, plutôt mourir. Benoît, tu m'inquiètes, tu es souffrant? Non. Mais qu'est-ce que tu as, voyons? Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Parle. Si elle pouvait le reprendre, là, tout de suite. Nue, elle triompherait. Mais Robert l'a mal rhabillée. Il est si paresseux, et il se méfiait si peu de mes aules. Elle hésite à ôter le manteau sous lequel le corsage est insuffisamment agrafé. Tu ne m'as pas embrassé. Oh, écoute. L'instant est venu. Il lui prend le poignet, un poignet fragile sous les bracelets de diamants, de saphir et d'émeraude. Et comme elle joue sa vie, elle tente encore de changer en sourire la grimace tragique de sa bouche tordue. Un sanglot monte qu'elle refoule parce qu'il serait l'aveu. Et devant cette détresse, devant cette laideur soudaine, Benoît Maisol n'éprouve plus rien tout à coup qu'une immense pitié. « Mais quoi? Écoute, râle-t-elle. Comme tu es solennelle, comme tu... » Elle s'arrête étranglée, cherche encore du courage pour la défense. Les griffes de la chatte au coussin. Prépare-toi, décide lâchement Monsieur Maisol, bouleversé. Fournier ne tardera pas, nous irons tous les trois dîner quête Béthune. Elle éclate. Ah, merci, merci. Et elle reprend. Ça me fait un tel plaisir d'aller chez ce marchand de vin. Et Nicole, délivrée, se jette au cou de son mari. Tout de suite, elle redevient jolie. Une angoisse rétrospective la fait frissonner et elle transforme ce frisson de telle sorte qu'il puisse flatter Benoît. Mon grand! Un peu plus, elle se trahissait. Elle qui s'imaginait si forte, pour un regard, pour un silence. Robert se moquerait bien d'elle. Au fait, si cela t'embête de sortir, nous pouvons rester ici. Je reverrai Fournier, je te confectionnerai un petit dîner à se lécher les 10 doigts. Oh, qu'il fait chaud! Je garde ma fourrure et mon chapeau comme si j'étais en visite. Elle sort pour retirer son chapeau, son manteau. Dans la détente de ses nerfs, et afin que sa victoire fût plus complète, elle souhaiterait qu'il l'a pris là, tout de suite. Elle lui revient en feignant l'embarras, jouant l'amoureuse, les narines palpitantes, le sein soulevé. Il recule. « Mais tu es vraiment de mauvaise humeur, » reproche-t-elle. « Ma petite proposition n'était pas gentille. Puisque tu t'assommes seule avec moi, je n'insiste pas. Nous dînerons dehors. Quel drôle d'homme, tout de même. » C'est fini. Monsieur Maisol ne sent plus que de la pitié. Une ironie aussi âcre, brûlante, qui le ferait rire ou éclater en sanglots. Il n'a pas pu prendre la chatte et la renvoyer. Elle est trop fine, trop frileuse, trop délicate. Elle souffrirait trop, oh, il ne pourra jamais. Ils sont à table, tous les trois, dans la petite boutique de marchand de vin, où il y a surtout des couplets qui se serrent amoureusement. Après cette rude alerte, Nicole dévore, Robert aussi. Il devine sa maîtresse chargée de reproches qu'elle lui exprimera à leur prochain rendez-vous. Il en a cure, étant tout ce qu'il fait, de sa douche matinale jusqu'à l'heure où il se couche après les frictions préconisées par les hygiénistes suédois. L'avenir n'est à personne, a-t-il coutume de déclamer. La vie est bonne et la soupe aux choux. Merveilleuse laisse prévoir le plus fin régal avec les rognons à la fine 1838. Et tout va bien. Mais difficile, par exemple, de tirer le sieur Maisol de sa torpeur. Ce potage est un poème, déclare Fournier. Tu n'as pas faim, Benoît? Il est amoureux, s'écrie Nicole. Et de qui? Demande Fournier. De Germaine, répond Benoît. « Mais à sa santé, » proposa Robert, « blonde ou brune, maigre ou à point ?»« Benoît, » interrompt Madame Maisol, « tu sais que j'ai ces plaisanteries en horreur. Laisse-les à Robert, je n'ai aucun droit sur lui. »« Et si vous aviez un droit, cher ami, je vous dresserais, j'essaierais de vous rendre un peu moins idiot. » Fournier, vexé, pense singulièrement prude ce soir, la femme Maisol. Et il change de conversation, aimable et prudent, comme le garçon coiffeur qui cause avec le client sans le connaître et s'abstient de tout ce qui pourrait froisser son interlocuteur. D'ailleurs, il a l'habitude du monde, étant l'intime de M. Jules Stibier, qui possède 300 millions. Et de Madame Heurteval, qui réunit la plus haute société de Paris. Monsieur Jules Stibier étant sourd, Robert a appris à articuler. Il détache les syllabes mieux qu'un élève du conservatoire. Tous les ans, ce Plutus lui fait un cadeau. Ainsi, Robert a une chaîne en platine, deux bagues artistiques, un porte-cigarette en onyx, un fume-cigarette en écaille blonde, un briquet en or incrusté de diamants. Sa conversation est nourrie d'anecdotes relatives au stibier. Et Madame Maisol l'écoute avidement. Elle l'aime peut-être pour ses belles fréquentations et parce qu'il porte sur lui comme un reflet de cette immense fortune. Le matin, il épingle à sa cravate un fer de cheval aux couleurs de l'écurie stibier. Et il a sur son mouchoir quelques gouttes de l'iris ambré qui est le mélange de Nicole. Mais comment celle-ci ne serait-elle pas flattée de se trouver en aussi brillante compagnie? Robert n'a pas été l'amant de Madame Stibier, non, il tient trop à Jules. Il faut être du parti de Jules ou de celui d'Élisabeth. Il a opté pour Jules, qui est moins volage dans son amitié que sa compagne dans ses amours. Et il encaisse sereinement les avances que lui prodigue Élisabeth. Encore vous, tel est son accueil le plus favorable. Ne t'en fais pas, elle te déteste parce que tu lui as jamais fait la cour, proclame Jules. Pas si bête. Pour Maisol, il en va tout autrement. Robert se soucie de Maisol comme un poisson d'une pomme. Ils ont été camarades de collège et se sont perdus de vue. Et quand ce cuistre s'est marié, Robert a été invité dans le jeune ménage. Grâce à lui, Nicole est montée, le jour des dragues, sur le mail-coach de M. Arneval, garde-gandin conservé dans l'alcool et qui entend vivre comme en 1885 sur le calendrier mondain le plus désuet. Au retour, la bise soufflait. Robert a étendu une couverture sur les genoux de Nicole et sur les siens, et il en a profité. Le mail-coach les a déposés à l'Arc de Triomphe, et avant de réintégrer leur domicile respectif, ils ont fait une suave station, avenue Wagram. Nicole était mariée depuis un an et assez romanesque. Robert lui enseigna le côté pratique de l'adultère. Pas de zèle. Ne jamais haïr son mari, même quand on le trompe. Se montrer au contraire reconnaissant de la liberté qu'il vous laisse et du luxe qu'il vous fournit, etc., etc. Il avait le même âge que Benoît, 38 ans. Nicole avait 27 ans. Que diable, nous ne sommes pas des enfants. Et en dot, Madame Maisol avait apporté un louis dans une cassette turque du plus princier travail. Don de son père, M. Londuro, qui était spirituel. Au fait, M. Londuro ressemblait à Robert Fournier en plus fantaisiste. Il brassait des affaires, mais selon sa propre expression, qui trop embrasse mal étreint. Et vivait en dehors de toute société régulière, se plaisante en compagnie de courtisanes qu'il appelait papa, avec une sorte de complicité admirative. En revanche, sa fille l'appelait Emmanuel. Avant son mariage, Nicole logeait avec son père, veuf dans une sorte de lanterne, au sixième étage, mais rue Crevaux, près du bois. Le dimanche matin, M. Londuro abandonnait les courtisanes et promenait sa fille avenue du Bois. C'était un sacrifice à l'esprit de famille. Nicole arborait alors un costume éblouissant. Lui-même, ganté, guêtré, verni, le chapeau canapé du côté sur la tête, n'était plus qu'un bourgeois cossu et attendri, flanqué de son héritière. On ne s'arrêtait qu'avec les personnes convenables. Et ce fut ainsi que Madame Clémanuel, femme de M. Clémanuel, maître de forge, leur présenta Benoît Maisol, historien, mais fils de feu, M. Eugène Maisol, avoué de première instance. Maisol, orphelin depuis peu, se sentait atrocement seul et errait sans autre but que de chercher à aimer, ce qui signifiait pour lui se marier. À cette époque, Nicole jouait encore à la petite fille pour se laisser du temps, car elle se jugeait d'un placement difficile. Elle passait des jours et des nuits de solitude, enragée à combiner des avenirs successifs, toujours dorés. Les gens fuyaient M. Landureau, qui empruntait volontiers de petites sommes, mais qui les rendait peu. Nicole n'avait pu exercer sa puissance que sur des camarades de son père, messieurs mûrs et avertis, qui flirtaient avec circonspection, craignant un traquenard. Et quand elle tint Maisol, elle décida de ne point le lâcher. Cet homme gigantesque et bon lui paraissait aussi amusant à exhiber qu'un de ces chiens danois démodés, mais qui font par leur taille remarquer ceux qui les promènent. Elle lui apporta un corps tripoté, mais virginal. Cela lui suffisait à son gré pour se sentir quitte envers lui. Il l'ennuya bientôt jusqu'à la nausée. Elle s'appliqua à le lui dissimuler. « Pas de blague !» exprimait M. Landureau. « Pas de bêtises !» appuya plus tard Robert Fournier. Donc, elle se résignait. Pourtant, l'été la laissait à bout de patience, prête à toutes les folies. Maisol avait pris l'habitude d'emmener sa femme pendant 2 mois et de lui faire partager les émotions d'un voyage archéologique. L'histoire l'inspirait, et il confondait la science avec l'amour. Il l'avait traînée à demi-morte de fureur et de lassitude, en Italie, en Tunisie, en Égypte. Rien ne pouvait être beau avec lui. Il soupirait, « Nicole, le sphinx !» Elle tressaillait, « Ah oui, comme c'est intéressant !» Et elle pensait, pour se venger, au rez-de-chaussée de l'avenue Wagram où son bien-aimé buvait des citronnades, en attendant que Jules Stubier le conviât à la mer, pendant une absence d'Elisabeth. Des contemplations de 2 heures sous un ciel constellé. Après quoi, il fallait faire de la poésie sentimentale en action. Elle s'indignait que Benoît réclamât encore de l'amour. Elle s'imaginerait frustrée Robert, pour qui elle s'efforçait d'éprouver de la passion, et elle s'inquiétait de son amant, bien qu'elle ne fût point jalouse, mais il lui fallait son petit roman, à l'instar des autres. Et quand elle lisait, à la fin de l'hiver, l'annonce d'un fabricant de malles pour les vacances prochaines, elle se sentait gagnée par une fureur homicide. Benoît les regardait, et il avait toujours pitié qu'il laissât cette dinde à cet imbécile. L'imbécile retournait bientôt à la grasse pâtée que lui servait son ami Jules, et Nicole, d'aventure en aventure, devenait une courtisane flétrie. Il l'eût chassée s'il l'avait aimée encore. Mais il venait de ressentir auprès d'une autre, de la première venue, ce désir dont, hier encore, il voyait la femme seule dispensatrice. Il était le plus fort. Lâcheté. Mais la lâcheté serait d'abandonner cette malheureuse. Un soir qu'il la désirait et qu'elle se refusait, il avait entrevu la vérité. Une scène terrible et grotesque. « Tu m'as jamais aimé !» Elle mordait les draps, il cria. « À vous !» Mais il n'arriva point à lui arracher son aveu. Pour ne point la battre, il se retira dans son cabinet de travail. À l'aube, les livres dont il s'entourait lui avait rendu un peu de sagesse et de philosophie. Il revint à Nicole et lui demanda pardon. Elle brûlait de fièvre. Et pendant 3 jours, il la soigna, la comblant de cadeaux, se faisant horreur à tel point qu'un mois après, il campait encore dans son cabinet. Ce fut elle qui, troublée à la fin, lui demanda de réintégrer le lit conjugal. Cette nuit de désir, de méditation, de souffrance et de remords marqua le point culminant de sa passion pour Nicole. Ensuite, il joua une sorte de comédie, sinon d'indifférence, tout au moins de tiédeur. Il espérait l'apprivoiser, mais quand il la tenait dans ses mains maladroites, elle se débattait d'instinct et cherchait à le fuir avec des mots ardents qui cachaient mal sa répugnance. Oh, tout cela, il l'avait prévu en se mariant, presque prévu, dans cette nuée dont on entoure les pressentiments quand ils sont funestes. Il se courba. Désormais, il lui suffirait qu'elle fût présente. Il l'admirait, prête à aller au bal, toute rose du plaisir escompté. Les précautions infinies qu'elle prenait en rentrant, afin de ne point le réveiller, l'ulcéraient. Et quand elle se glissait, souple et légère, à côté de lui, il serrait les poings pour ne pas se retourner et l'étreindre, pour la laisser à son rêve de danse, de musique, d'élégance et de plaisir. Fournier amusait Nicole. Il adopta Fournier, Sigisbée sans conséquence, peut-être. Un jour, il acheta un lit de camp, l'installa dans l'alcôve de son cabinet de travail, et ils firent chambre à part. Le lendemain, elle vint le trouver. Seule, elle avait eu la vision de cambrioleur qui venait l'assassiner. Il la rassura, la berça. Elle ne demandait pas autre chose. Ayant rejoint son lent lit, elle s'endormit en riant de ses terreurs. De loin en loin, elle le rappela, puis ils ne se virent plus qu'au repas. Elle eut un grand chagrin quand Robert, convié par Madame Mourteval, accompagna celle-ci en Écosse. Benoît interrogea sa femme et elle mit ses pleurs sur la crainte qu'elle avait d'être tuberculeuse. « Non, j'ai des cannes terribles, j'ai peur de déranger la nuit. » Il faillit devenir fou, convoqua des médecins, parla de s'exiler en Suisse avec elle dans la neige. Et elle prolongea le jeu, même après le retour de Robert, comme ces enfants menteurs qui veulent se faire dorloter. Dès lors, il la crut de chance chancelante, bien que les docteurs l'eussent rassuré. Il se croyait encore amant, qui n'est plus que père. Et ils vécurent désormais côte à côte, sans un baiser, en vieux époux qui n'ont pas la consolation d'un beau souvenir commun. Pendant que Fournier réclamait son vestiaire, Nicole glissa à son mari. « Je suis toujours ta petite fille ?» Et il répondit sincèrement « Mais oui !» Il venait de se la représenter abandonnée de tous, et son cœur en était chaviré. Une Nicole misérable et toussant dans une mansarde. Pauvre femme si frêle au cerveau de malade. Et Benoît, qui avait pitié des plus humbles animaux, n'aurait pas eu pitié d'elle. Où irons-nous cet été? Oh, je serai forcé de rester à Paris. Tu pourras aller en Suisse, Robert te tiendra compagnie. Elle feignit une vive déception. Quelle idée! Et ton repos? Ah, voilà Robert qui revient. Ne lui parle de rien encore. Ils passèrent la soirée au Music Hall, puis Fournier prit congé d'eux. Vous allez au cercle? Demanda Nicole. Ou ailleurs? Quelle existence! Robert se cambrait, farot et mystérieux. Il disparut, la canne en bataille.
« Il t'exaspère, » dit Nicole. « Je comprends cela. Nous pourrions nous arranger pour le voir un peu moins. Il est si loin de toi. Tu lui es tellement supérieur. À notre époque, cette existence d'oisif, remplie de stupidité. Moi, il ne me distrait pas follement, tu sais. Et si je passais un mois avec lui en Suisse, je gage que nous reviendrons brouillés. »
Il ne répondit pas et lui souhaita le bonsoir sur le seuil de cette chambre où il n'entrait plus jamais.
Elle soupira. « Oh, je n'aime pas ton regard, tu sais, Benoît. Ce n'est pas ton regard habituel. As-tu quelque chose contre moi ?»«
Non, rien. »
« Je suis toujours ta petite fille, jure-le. »«
Je le jure, ma pauvre petite fille. »
Tu vois, ma pauvre petite fille, Benoît. »
Il s'arracha d'elle et s'enferma. Il aurait désormais sa vie secrète qui le vengerait de l'autre. Et personne ne souffrirait par lui, personne, pas même l'infidèle, pas même ce parasite.
On n'est jamais trop bon, conclut-il. Je suis responsable. Lorsque je l'ai prise, je savais qu'elle ne m'aimait pas.